ça a l'air de fonctionner, c'est bon.
9, 8, 7.
Les improgrammables.
Vous écoutez Les Improgrammables, l'émission improvisée qui prend l'antenne avant même de savoir pourquoi. Plus le son, écoute ça, un ovni radiophonique pas franchement académique. Tu comprends rien ? De campus avec sa clique. Une émission 100% improvisée, un animateur et quatre chroniqueurs inspirés qui brodent sans filet sur des thèmes aléatoires pondus par les auditeurs. Et même les plus absurdes, nous devons de leur faire honneur. Tu tombes sur nous et tu te dis c'est quoi ce truc là? Ben c'est pas compliqué, en fait nous-mêmes on ne sait pas de quoi ça va traiter, mais on va s'efforcer d'en parler et surtout d'avoir l'air de savoir où on veut aller. Tic tac, c'est le tic qui passe à l'attaque. Pas d'impro en toc, on embraye du tac au tac. Laisse-toi emporter par nos chroniques sans queue ni tête, quel que soit le sujet. C'est dans le vif qu'on le maltraite, envoyé spéciaux. Des univers imaginaires, là où on sème nos graines. La logique plus de travers, le tour impro club s'empare de ta radio, rebondit sur les mots. Et si par malheur on s'embrouille et bafouille au micro, puisse la créativité prendre l'assaut de nos cerveaux.
Vous écoutez Radio Campus 99.5 FM. Bienvenue dans cette nouvelle émission des Improgrammables. Sans doute la dernière de la saison, puisqu'après, nos impronalistes vont prendre des vacances bien méritées. Et ce sera sans grande surprise et sans grande originalité par rapport au moment qui nous occupe, une émission spéciale Jeux Olympiques. Olympique, pas olympique, puisque la cérémonie d'ouverture se déroulera maintenant dans 9 jours, 15 heures, 58 minutes et 17 secondes, 15 secondes maintenant. Et donc nous allons traiter de ce sujet pendant l'heure qui va venir, durant laquelle toutes nos chroniques, toutes nos histoires seront improvisées sur la base de mots que les impronalistes vont choisir aléatoirement lorsque je leur demanderai. Et en parlant d'eux, autour de la table, j'ai Frédéric GDI. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir, bonsoir.
Alors,
à tous.
Êtes-vous dans une forme olympique ce soir?
Et oui, bien sûr, une forme olympique. C'est l'été, c'est les vacances, je fais du sport, je suis olympique.
Ça ne se voit pas encore, mais il ne saurait tarder. Eh bien, Jean-Marc Morandini, Moramidi, pardon, je vous ai confondu avec mon homologue, excusez-moi. Jean-Marc Moramidi est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir, hein. Oui, moi je précise que je ne suis pas en prison, donc je peux vous parler.
Alors vous, vous avez ravivé la flamme dans votre vie.
Oui, bah effectivement, hein, comme mon horoscope semainiel le prédisait, eh bien, je suis allé voir ma concubine et je lui ai dit « Chérie, c'est le moment, on prend nos places, fin août, nous sommes à Paris ».
Ah, ça c'est formidable. J'ai aussi à côté de moi Guillaume Maurice. Alors, je n'ai plus de jeu de mots sur les Jeux Olympiques, comment ça va?
Écoutez la patate, je suis maraîcher.
Vous êtes maraîcher?
Je suis maraîcher.
Ok.
C'est mon métier.
Très bien.
Et journaliste à mi-temps.
Ah, voilà. À mi-temps, c'est vrai. J'avais oublié que vous êtes à mi-temps. Je n'ai pas encore l'habitude de vous avoir dans le studio. Et il est à la technique. On l'applaudit bien fort, mais le son moins fort. Alors justement, c'est bien la bonne soirée pour être là. Il s'auto-applaudit à la technique, c'est formidable, j'adore. C'est vraiment la bonne soirée pour être là, puisqu'on va, on va parler de sujets qui vous tiennent à cœur.
Ah mais à cœur, à pic, à trèfle, à carreau, moi j'adore.
Eh bien, c'est parfait. Et puis moi-même, David Poujadis, heureux de vous accompagner ce soir pour un sujet qui m'est cher, le sport, puisque j'en regarde beaucoup, j'en pratique beaucoup. Hein. Je pense que ça se voit. Donc, je suis très, très heureux d'être avec vous ce soir, chers auditeurs. Et nous allons tout de suite commencer par une petite impronique.
Voyons, qui peut me dire de quoi tout le monde parle en ce moment?
Impronique.
Impronique.
Alors le brosor, il a coupé les manettes.
On a creusé le sujet.
Et il te croque un oiseau merde et le beurre dans le couloir son berga.
Et on est tombé sur un os.
Alors avant de commencer cette impronique, il va me falloir le nom d'un métal.
Titane.
Titane, très bien. Eh bien, c'est Guilhem Maurice qui va nous faire cette impronique. Alors, Guilhem, pour allumer le feu et raviver la flamme, un chercheur a inventé un système inédit à base de titane qui permet de garder la flamme olympique allumée même au fond de la Seine. Dites-nous en plus.
Tout à fait. C'est une découverte que nous devons donc à Philippe Guillermo Albatros Maurice, qui est un lointain parent à moi, je dois bien le dire, et qui a donc découvert ça en faisant la cuisine. Il se trouve que Philippe adore utiliser des poêles en titane dans sa cuisine. Et un jour, alors qu'il faisait des œufs brouillés, finalement, un dimanche matin comme un autre, il va pour laver la dite poêle en titane dans l'évier, et là sort de la poêle qui était extrêmement chaude des flammes.
Alors, il paraîtrait que le Comité international olympique s'est emparé de cette méthode afin que la flamme puisse traverser les océans, ce qui était jusque-là impossible, sous l'eau, j'entends bien sûr.
Oui, tout à fait. Donc, c'est malheureusement un peu tard pour les JO de Paris, mais il semblerait que entre, je dis JO, alors pardonnez-moi, entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, la flamme devrait faire un aller-retour Paris-New York en sous-marin.
Mais alors, la question qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce que la flamme olympique va se baigner, elle, dans la Seine ?
Alors, elle a été interrogée et il semblerait que non. Je suis au regret de vous décevoir, mais la flamme olympique ne souhaite pas être en contact avec l'eau de la Seine, qu'elle ne juge pas assez pure pour ses douces lamelles de titane.
Très bien, merci beaucoup, Guilhem. Nous vous rappelons que les lignes 12-1 sont impactées par, par les Jeux Olympiques.
Comme d'habitude.
L'arrêt Concorde n'est pas desservi. Eh bien, sans plus tarder, nous allons partir en improportage.
L'improportage.
Les amis, viens voir. Je suis dans une plantation de cannabis.
On vous emmène.
Comme tu ne risques pas d'en trouver en France.
Ça y est, c'est allumé.
Au bout du monde.
Et voilà,
là je suis à l'ouest.
Alors, afin de réaliser cet improportage, il va me falloir le nom d'un monument parisien.
Petit Palais.
Le Petit Palais. Un prénom et un nom.
Patrick.
Patrick.
Carmouze.
Carmouze. Et enfin, le nom d'un animal.
Le ratel.
Oh, attendez, pas tous en même temps. La pieuvre. Je vais prendre la pieuvre. Bien, pour cet improportage... Jean-Marc Moramidi est parti dans la loge du gardien du Petit Palais à Paris. Patrick Carmouze y officie depuis 32 ans maintenant et l'organisation des Jeux Olympiques chamboule son quotidien, habituellement pondéré, ponctué par le passage des pieuvres devant sa loge.
26 avril. Paris 8e, je me trouve actuellement sous le Petit Palais. Le Petit Palais, c'est ce monument qui a été designé par feu Napoléon III et qui a été inauguré à l'époque pour servir d'observatoire sur la faune aquatique de la Seine. J'ai ici rendez-vous avec le conservateur de ces lieux, un homme sombre, un homme mystérieux que peu de gens ont pu approcher jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Patrick Carmouze, et voici son récit.
Alors, moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que les animaux aquatiques dans la Seine, je veux bien, mais les pieuvres, ce n'est pas endémique.
Patrick m'explique que depuis qu'il officie, c'est-à-dire depuis 32 ans, il a vu radicalement la faune et la flore de la Seine changer. En effet, notamment depuis les travaux entrepris par la mairie de Paris et sa mère Anne Hidalgo pour clarifier l'eau de Paris en vue des Jeux Olympiques, eh bien, cela a pu attirer de nouvelles espèces, comme par exemple le héron cendré ou la pieuvre aquatique.
Oui, alors le héron cendré, bon, c'est normal, il y a des poissons dans la Seine. Bon, il n'y en a plus beaucoup, ils sont en mauvais état. Mais c'est sa nourriture, donc il vient. Regardez, un très beau spécimen.
Devant nous passe un héron cendré, sauf que, contrairement à ses cousins costarmauricains, ce héron-là a également de la cendre réelle sur le bec, témoin de la pollution qui sévit dans la capitale.
Oui, et puis bon, on va être honnête, là il va se poser, il y a une pieuvre qui va surgir, elle va l'embarquer, elle va le bouffer. On a un vrai problème avec des animaux qui ne devraient pas être là. Je pense que c'est dû à des containers qui ont été déchargés du côté de Rouen, qui ont roulé jusque-là à cause des inondations. Je ne vois pas d'autre explication.
Tout en m'expliquant ces bouleversements démographiques, je tourne la tête dans le cabinet de curiosité de Patrick et tombe sur un vieux fusil.
Oui, alors ce vieux fusil est quand même très pratique parce que tous les hérons que les pieuvres n'ont pas, c'est moi qui les mange.
Patrick m'explique être au SMIC depuis de très nombreuses années, et malgré l'augmentation à 1 600 € promis par le nouveau gouvernement, Patrick boucle les fins de mois difficilement. Il a donc pris sa carabine et se met à chasser le héros.
Eh oui, pas le choix. J'ai vous connaissez maintenant... les loyers à Paris ?
Eh oui, Patrick, malheureusement, je les connais. Je me trouve maintenant sur les quais de Seine et j'ai à la rencontre d'un... Oh mon Dieu ! Mais c'est une carpe avicole ! On n'en avait pas vu ici depuis 152 ans ! Je pars donc à la rencontre d'un spécialiste de la faune sous-marine parisienne. Il m'attend sur son bateau et va me guider sur les méandres de la Seine.
Quand vous parlez des méandres, la particularité, c'est quand même qu'il n'y en a pas. La Seine est particulièrement rectiligne, notamment à Paris, quand bien même on dit qu'elle se découpe autour de l'île Saint-Louis et de voilà. C'est quand même très limite de parler de méandres.
Avec son ton goguenard, voire un petit peu circonspect, Jean-Michel Dupuis m'explique la topologie de cette rivière qu'il connaît si bien. Lui aussi a vu le fleuve changer.
C'est peu dire que je l'ai vu changer, parce que faut savoir que c'est un système très hydraulique qui forme finalement le lit des rivières, et le fait d'avoir supprimé, en tout cas endigué pendant un certain temps, l'arrivée d'eau des égouts de Paris, ça fait qu'on a un flux et un reflux, non pas gastrique mais pas loin, au niveau de la Seine. Et la formation de méandres est fortement, fortement encouragée par la suppression de toutes les fosses à caca qui se déversent dans la Seine au niveau de Paris. Donc en fait, il y a un vrai problème hydromorphique qui fait que l'eau ne s'écoule plus comme avant. Donc moi, je plains les athlètes. Hein.
Jean-Michel m'emmène ensuite quai de Javel, qui a pour une fois si mal porté son nom. Il me montre ces amas de boue, de putréfaction, de graisse liquide, statique, qui empoisonnent l'eau de Paris, à l'insu du plein gré des Parisiens. Je me tourne maintenant sur la rive et je vois un badaud, un habitant du quartier. Il me dit vivre là depuis de très nombreuses années et s'apitoie de cette situation.
Bonjour, oui, c'est vrai, je vis là depuis de nombreuses années et vraiment, je m'apitoie, comment dire, de cette situation.
Et vos déchets aujourd'hui, qu'en faites-vous depuis les dernières mesures ?
Pour l'instant, je les stocke chez moi, donc j'ai un petit local. J'ai la chance d'avoir une chambre d'amis que j'utilise pour stocker mes sacs poubelles et autres immondices.
Ce riverain, qui n'a pas souhaité témoigner sous sa réelle identité, m'explique que malgré ses considérations écologiques, il commence à en avoir marre de tous ces déchets qui accumulent dans son appartement et il est de plus en plus en froid avec ses voisins. C'est ainsi que je quitte le bord de la Seine. Seine purifiée, Seine nettoyée, mes problèmes non réglés. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois, en ce même lieu, pour constater l'étendue des dégâts.
Et je vous rappelle que la station Champs-Élysées Clémenceau, ligne 1 et 13, sera fermée du
20
juillet au 11 août inclus. Bien, alors c'est le moment de passer à une rubrique inédite pour ces Jeux Olympiques. Si notre technicien est prêt, puisque nous allons écouter un certain nombre de musiques qui sont issues des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Et ça va être à vous, chers collègues, d'en reconnaître alors, l'année, la ville, éventuellement la personne qui chante ou qui a composé la musique. Et cela permettra à nos auditeurs de découvrir ces différentes musiques de cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors on va tout de suite commencer avec le premier extrait.
Eh bien le voici.
Los Angeles, 1984.
Non. Alors, on est dans la bonne décennie. Les années 80.
Séoul.
Séoul, 1988. Et alors qui a pu composer cette musique à votre avis ? Très connu, compositeur de musique de film.
George Williams.
John Williams,
effectivement. Olympic Spirit. Bravo, bravo. Deuxième extrait tout de suite. Oh, on l'entend de très loin.
Albertville 92.
C'est plus tard.
Atlanta.
C'est plus tard.
Paris 2024.
Non.
Ou Sydney. On va tous les faire, Bruno. Ou Londres.
La Grèce. Londres 2012, wow. Effectivement, hein, ça vous met sur une petite ambiance des années 2010. Mmh. En termes de musique, bravo. C'est toujours Jean-Marc Moravidi hein, qui tient la tête hein, du classement. Allez, troisième extrait. Ouais, la qualité est pas dingue.
C'est Queen.
C'est Queen, Freddie Mercury. Exactement, eh oui. En duo. Alors quand est-ce qu'il
84
a chanté? Non. Quand est-ce que Freddie Mercury a chanté lors d'une cérémonie d'ouverture?
1972.
Vous aurez la réponse très très bientôt 76. Dans la musique. Vous allez voir.
Barcelone. Ah, Barcelone 92.
Barcelone 92. Exactement. Freddie Mercury en duo avec Montserrat Caballé.
Ils avaient mis le budget.
Et Montserrat Caballé, un chanteur lyrique très connu chanteuse. Quand même. Oui, pardon. Chanteuse lyrique très très connue, notamment par ses interventions sur Carmen.
Et oui.
Bien sûr.
Ça a été son personnage central qui l'a fait connaître en duo avec
tout à fait.
Paparotti. Avec énormément de personnes.
Tout à fait, c'est exact. Allez, quatrième extrait, ça va aller très vite.
Bah, un truc en Chine.
C'est où un c'est truc où en Chine.
Pyeongchang ou Beijing.
Ah oui, Beijing.
Pékin 2008, effectivement, pour une musique qui s'appelle Bienvenue à Pékin, avec plein de personnalités très connues de Chine. Alors, ça a été critiqué parce que c'était très élitiste hein, comme musique ou comme personnalité. Bravo. Oui, alors le son est pas fou, hein, je pense, en tout cas dans nos casques.
Je ne suis pas sûr que ça vienne de la technique. Non, non. Peut-être des enregistrements,
dit la technique.
Ça vient sans doute de YouTube. Allez, cinquième extrait, là aussi reconnaissable. C'est l'effet vinyle, ça.
J'ai envie de dire Berlin 1936.
Eh bien, dites-le. Si vous en avez
envie, dites-le. Je l'ai dit.
Caliente.
Ouais, caliente,
effectivement. Rio de Janeiro.
Rio 2016, oui. Les dieux de l'Olympe.
On dirait un truc beaucoup plus vieux.
Chaque continent... Ouais, mais non, c'est 2016, ça. Chaque continent a ses petites spécificités. Allez, sixième extrait.
Paris 2024.
Paris 2024. Ah oui. Hein. Alors, qui l'a composé, cette musique?
David Guetta.
Bah, c'est pas
David Guetta. Pas du tout David Guetta.
Il n'a pas été invité.
Oui, c'est vrai.
Il a fait Chambord.
Les Daft Punk.
Victor Lemann. Lemann, ce sera la musique de la parade.
Bravo, Victor.
Paris 2024.
Vous l'entendrez suffisamment, normalement.
Vous devriez l'entendre, effectivement, le 26 juillet. Et alors, un petit bonus. Un petit bonus qui mange pas de pain.
On y va.
Et vous allez voir, elle reste bien en tête.
J'ai mal aux oreilles.
C'est long.
C'est long, hein. Mais plus c'est long, plus c'est bon.
La flamme olympique.
Ouh.
Est emblématique.
J'ai les oreilles qui saignent.
Oui, hein, ça le.
Ah, c'est qui?
Alors, c'est qui là? La flamme olympique. Hein.
C'est côté Chantal Goya quand même.
Ouais, il y a ça. Mais...
Est-ce que ce serait pas la Ariel?
Ah non, Ariel, donc.
On est très très loin. Hein.
Ah non.
C'est un groupe qui est pas du tout connu pour enfants qui s'appelle Parole de Farfelu.
Oh.
Ah. Alors pour les locaux, hein, ça a été pris pour le feu d'artifice de Ballan Miré jouer les tours du 13 juillet dernier. Hein. Ils ont tiré des feux sur la flamme olympique. C'est sympa. Hein.
Ils ont tiré des feux sur la flamme olympique.
Ça reste bien en tête. Hein. La flamme olympique.
Je dois avouer que j'ai pas vu le cas.
La flamme olympique. Allez, bravo, bravo. Je crois que c'est Jean-Marc Moravidi qui remporte la médaille d'or.
Je suis pas tout à fait sûr. Je porte réclamation.
Il a trouvé Paris 2024.
Et oui, quand même, Paris 2024. Donc ça veut dire que vous aviez déjà écouté
non, en
avant-première.
Non, en plus, j'ai vraiment tenté au bluff.
Eh bien, c'était un très, très joli bluff qui va nous emmener tranquillement, mais sûrement, sur une improculture avant une petite pause musicale, une vraie cette fois-ci.
Improculture.
Et c'est Guilhem Maurice qui va se coller à cette improculture. Et avant cela, il me faudrait un prénom, chers amis.
Vanessa.
Vanessa. Un nom.
Diaz.
Diaz. Et le nom d'une fourniture de bureau.
Une règle.
C'est basique, mais ça peut fonctionner. Nous allons parler dans cette improculture de culture-isme. Puisque nous recevons aujourd'hui Vanessa Diaz, débrouillez-vous puisqu'il n'y a que des hommes autour de cette table, pour la sortie de son best-seller « Avoir des muscles en une semaine avec la méthode de la règle ».
Excusez-moi, j'ai...
Vous n'écoutiez pas, mon voilà, cher
Guilhem. J'étais en interrogation si j'étais Guilhem ou Vanessa. Je suis Guilhem.
Vous êtes Guilhem et vous interrogez Vanessa Diaz pour la sortie de son best-seller « Avoir des muscles en une semaine avec la méthode de la règle ».
D'accord. Bien sûr, je le sais, je suis au courant. Vanessa Diaz, bonjour.
Bonjour.
Et écoutez, on est ravis de vous accueillir dans nos studios parce que vraiment... Votre livre, on l'a tous lu, je crois, et on l'a dévoré, tout simplement.
Bien, je comprends, mais d'ores et déjà, je voudrais juste corriger le titre. C'est la méthode des règles et pas de la règle.
Ah oui, c'est vrai qu'en lisant le livre, on comprend bien pourquoi, mais est-ce que pour les auditeurs, vous pouvez nous en dire plus ?
Eh bien, bien sûr, notamment les doses de testostérone permettent à une personne de mon genre, en se privant des règles, de prendre beaucoup plus de muscles et de rentrer dans cette discipline du culturisme.
D'accord, mais vous ne trouvez pas que c'est un peu clivant de proposer cette méthode qui somme toute est réservée à une très petite part de la population finalement ?
Il n'y a pas de clivage dans la mesure où je ne force personne. Donc au contraire, si vous désirez assumer un corps plus musclé, plus musculeux, et que vous avez par votre naissance des taux d'œstrogène très importants, eh bien, au contraire, cette méthode des règles permet de sortir de ce que le déterminisme biologique, génétique a fait de vous, sans vous poser la question.
D'accord. Alors, je crois que c'est assez marrant, vous le racontez dans le livre, et je ne veux pas vous paraphraser. Vous racontez vraiment l'histoire qui vous est arrivée quand vous rentrez dans une boulangerie et c'est là que vous avez l'épiphanie de cette idée folle.
Excusez-moi, mais j'ai pas compris la référence au 6 janvier.
Alors, non, je voulais juste dire que c'était la révélation, vous l'avez eue donc en rentrant dans une boulangerie, si je ne m'abuse.
Non, vous ne vous abusez pas. C'est vrai que l'épi dans une boulangerie, j'avais pas compris tout de suite votre jeu de mots, mais je ne m'appelle pas Fanny, hein, mais Vanessa Diaz. Donc j'ai eu l'épi Vanessa en rentrant dans une boulangerie parce que j'étais par ma pratique du culturisme très habitué à manger beaucoup, beaucoup de sucre lent et notamment beaucoup de pain. Et en fait, le pain a aussi ce retour de boomerang, dirais-je, qu'il fait gonfler, notamment le système digestif, sans forcément développer la masse musculaire. Et c'est là que l'idée m'est venue de me dire comment je fais pour me priver de pain, ou en tout cas en manger moins, tout en conservant le principe de digestion des sucres lents qui vont augmenter ma masse musculaire sans augmenter le périmètre de mon intestin grêle.
C'est fascinant. C'est fascinant et encore plus fascinant est la façon dont vous avez décidé de vous approvisionner en testostérone, puisque je crois que vous aviez donc, vous vivez en Bourgogne, si je ne m'abuse, et vous aviez donc dans votre jardin quantité d'escargots. Et là encore, j'ai envie de dire, deuxième épiphanie pour produire de la testostérone.
Eh bien. C'est un passage assez délicat de mon livre que tout le monde ne comprend pas. Comme vous dites que vous avez envie de le dire, et ben je vous propose de le dire parce que je préfère vous corriger plutôt que de raccourcir la compréhension de ce passage.
D'accord. Mais n'hésitez pas à me couper hein, si...
Je n'hésiterai pas.
Voilà. Donc si je ne m'abuse encore une fois, vous avez récolté des escargots pour simplement en faire des... pour vos invités le soir même.
Et c'est exact.
En les cuisinant finalement, et en fait j'ai envie de dire en les dégustant avec vos invités, vous avez trouvé qu'ils avaient tous et toutes pris en agressivité et même en force, puisque en est venu des batailles de bras de fer, j'ai envie de dire.
Vous avez beaucoup envie de dire, oui, et vous dites bien, à noter, et quand même, c'est peut-être ce qui va nous permettre de finir cette interview qui s'éternise, mais les escargots sont hermaphrodites, et dans mon processus scientifique pour continuer à développer la masse musculaire, j'ai, à l'aide de plusieurs chercheurs de l'INRA notamment, réussi à sélectionner des escargots qui ne sont que des escargots mâles et qui ont donc une production de testostérone bien supérieure, ce qui permet, en les dégustant, de développer vraiment ce culturisme plus fort.
Comme quoi vous aviez vraiment envie de l'expliquer vous-même, Vanessa, et on vous aime pour ça. Merci Vanessa Diaz avec son livre. Je le rappelle, s'il y en est encore besoin, avoir des muscles en utilisant la méthode des règles.
Merci beaucoup, monsieur.
Et je vous rappelle que la station Tuileries sur la ligne 1 est également fermée.
Oh, scandale.
Eh bien, nous allons marquer une pause musicale en écoutant une chanson de La Race, un duo issu de la French Tech qui dénonce...
Comment faisais-tu avant sans lui dans ta vie? Tu voyais les gens? Tu n'avais que 30 amis. Facebook au réveil, WhatsApp au petit-déj, Twitter sur le siège, Insta au soleil, Snap pour la sieste, Telegram en reste. Amazon au boulot, LinkedIn dans le métro, eBay à l'occasion, Viber c'est la base, Messenger en solo.
Ton cœur s'emballe à la moindre notification. Tu guettes un like, un message, une attention. L'amour tu le reçois par vibration. Ce petit rond rouge est un bonheur sans nom.
Plus d'errance intellectuelle, de la déshérence tactile. Déconnecte-toi du monde réel, ton mobile pour évangile. Quand la tech te lâche, que le bug te guette, quand ton PC crash, que ton iPhone pète, ta mère sur internet, ton père sur Mickey, ta soeur qui se la pète, ta famille dans le Mac. Il n'y a plus qu'avec lui que tu es tactile. Il sait t'écouter, ils sont nombreux derrière ton combiné. Il te connaît par cœur, mieux que toi-même.
Ton cœur s'emballe à la moindre notification. Tu guettes un like, un message, une attention. L'amour tu le reçois par vibration. Ce petit rond rouge est un bonheur sans nom. Ton cœur s'emballe à la moindre notification. Tu guettes un like, un message, une attention. L'amour, tu le reçois par vibration. La data est ton...
Dis adieu à l'ennui. Tu as troqué tes amis pour des contacts en Wi-Fi.
Eh bien, on ne s'attendait pas à ce que ça finisse comme ça, en fait, mais parce que c'est la première fois que ce titre est passé à la radio. Un de vos cousins, peut-être, Guilhem?
Oui,
que
alors
la voix ressemble.
Je les connais, oui, je les connais bien. C'est mon fils, en fait.
Ah, le fils caché de Guilhem Meurice. Nous le découvrons. Eh bien, il est 20h30 maintenant. Nous sommes à 9 jours, 15h31 minutes et 0 secondes. De lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024 et nous allons tout de suite débattre avec vous lors d'une improlémique pour laquelle j'aurai besoin du nom d'une profession avant de commencer à débattre à l'approche de ces Jeux Olympiques juste après le jingle.
J'ai complètement
jingle,
oublié.
Jingle,
jingle.
Débattons, débattons.
Débat. Voilà, c'est ça, hein, l'art de l'improvisation.
Je vous ai compris. Vive la République.
Je vous demande de vous arrêter.
Vive la France.
J'en avais assez de cette bande de racailles.
Un polémique.
Ils ne vont encore pas être d'accord.
Eh bien, nos impronalistes vont débattre de ce sujet, puisqu'à l'approche des Olympiques, les tourneurs Fraser revendiquent l'augmentation du nombre de marteaux pour ne pas être impactés par les... Je n'arrive pas à me relire, je suis désolé. Nuisances, le mot était nuisances. Pour ne pas être impacté par les nuisances occasionnées par les jeux. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre cette revendication? Je crois savoir, Frédéric, que vous êtes totalement opposé à cette revendication.
Mais complètement, complètement opposé à cette revendication. Enfin, il faut connaître un petit peu le métier des tourneurs Fraser et... bien comprendre qu'à aucun moment, ils n'ont besoin de marteaux dans leur atelier, ni dans leur travail. Donc pourquoi une augmentation de marteaux réclamée par les tourneurs Fraser? Ça n'a aucun sens.
Moi, je me suis laissé dire que ces marteaux étaient surtout faits pour taper sur les visiteurs, il me semble.
Ah, bah,
c'est
dans
pour
ce
ça
cas-là,
que Jean-Marc Moramidi, d'ailleurs, est plutôt
court. Dans ce cas-là, ça
court.
Fait sens.
Oui, bah oui, oui, effectivement. Hein. Merci de m'introduire, cher David. Moi, je pense que des avantages ont été concédés à la SNCF, des avantages ont été concédés aux pompiers, des avantages ont été concédés même aux présentateurs du JT de TF1. Donc, au bout d'un moment, considérons toutes les professions qui font vivre notre belle ville de Paris, notre belle capitale, et aidons ces pauvres tourneurs Fraser. Au bout d'un moment, s'il faut protéger cette ville, il faut aussi des fois se faire un ou deux touristes respectueux.
Les aider, oui, mais promouvoir la violence, quelle aberration! On peut les aider en empêchant les touristes d'aller les voir, en les protégeant, en les délocalisant, en les augmentant, en les automatisant, mais pas en prenant la violence. Vous voulez vous prendre un coup de marteau, vous ?
Bon, vous savez, hein, j'étais à la FNAC l'autre jour, je me suis fait gazer sans raison, donc un coup de marteau de plus ou de moins. On vit dans un monde ensauvagé, de toute façon, mon cher Frédéric.
Mais c'est bien pour ça qu'il ne faut pas en rajouter.
Moi, je pense... sincèrement, je pense que ces gens, il faut les aider. Mon grand-père, il était bougnat, il était tourneur fraiseur de métier, voilà. Et lui, il n'a jamais eu suffisamment de marteaux. Et vous savez quoi, à l'époque, quand Claude François a sorti son titre « Si j'avais un marteau », eh bien, « Si j'avais un marteau », c'était l'hymne des tourneurs fraiseurs. Et que disait ce bon Claude François, ce philosophe qui avait compris son pays avant tout le monde, d'ailleurs? Si j'avais un marteau, je serais plus heureux, tout simplement. On ne demande pas le SMIC à 1800 ou 2300 euros, on demande juste un marteau.
Jean-Marc, je pense vraiment...
Entendez-les, ce chant des partisans.
Je pense vraiment qu'il faut que vous arrêtiez de boire, Jean-Marc.
Non, ça
vraiment,
c'est...
Vraiment. Je ne vois pas d'autre explication à votre argumentation que je qualifierais de marteau. Voilà.
Oui, alors bien, je suis désolé, j'ai croisé Melson dans les couloirs, effectivement, il m'en a fait tourner une petite.
Nous n'allons toujours pas vous mettre d'accord, eh bien c'est dommage, mais ainsi va la vie.
Bah c'est comme ça, on a l'habitude.
Et je vous rappelle, si vous ne le saviez pas, que du 18 au 25 juillet, les trains de la ligne 7 ne marquent pas l'arrêt aux stations Pont-Neuf, Châtelet et Pont-Marie. Il va falloir marcher.
Alors même qu'il y a les JO?
Alors même qu'il y a des JO, en fait, plus il y a de monde, moins il y a d'arrêt. C'est un peu le principe. Allez, on va finir cette première partie en répondant rapidement à quelques problèmes de nos auditeurs. Alors, je prends très rapidement quelques mots. Le nom d'un sport?
Curling.
Le curling. Le nom d'un alcool?
Marie Brizard.
Vous dites des trucs vachement longs à écrire. le nom d'un chanteur?
Michel Polnareff.
Des trucs courts.
M.
Merci. Le nom d'un meuble?
Commode.
Merci. Le nom d'un aliment?
Riz.
Et un adjectif?
Anticonstitutionnellement.
Court. Allez, premier, on va lancer le jingle d'abord.
Merci quand même, que la technique sert à quelque chose.
D'habitude, vous ne les lancez pas. C'est pas...
Allô?
Un problème.
Allô?
Nos meilleurs spécialistes.
Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce.
Allô? Pour vous conseiller.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Allez, première question que nous posent nos auditeurs. Riz, en pratiquant le curling, j'ai augmenté ma consommation de Marie Brizard. Est-ce inéluctable?
Oui. Ah oui, parce que pour pratiquer le curling, il faut être déprimé. Et quand on est déprimé, on boit pour oublier. Donc logiquement, c'est inévitable. Enfin, je ne vois pas d'autre solution que d'arrêter le curling. Du coup, le moral va repartir vers le haut et on arrêtera le Marie Brizard.
Donc il faut vous inscrire au curling anonyme. Deuxième problème, depuis que j'écoute Michel Polnareff, je fais le tour de ma commode à cloche-pied. Aidez-moi.
Oui, mais c'est vrai que Michel est très connu dans le milieu pour être un incitateur à tourner en rond. Et sa chanson sur sa première visite à Ikea a vraiment perturbé beaucoup de fans. Ce qui comprend, voilà, ce
moi,
qui explique
moi je conseillerais de changer de pied à mi-tour.
Tout s'explique, ce qui évitera les entorses d'ailleurs.
Et de changer de sens peut-être aussi, parce qu'à force de trois tours dans un sens, trois tours dans l'autre, peut-être que la personne aura l'impression d'aller droit.
Voilà, c'est le nini du Polnareff. Et enfin, dernier problème à régler, je mange tous les jours du riz, pourtant je reste court. Comment m'en sortir?
Alors, est-ce que l'auditeuriste s'appelle David Poujadis?
C'est
pas
fort possible.
Du tout. C'est très méchant ce que vous dites là.
Alors moi j'ai une suggestion, c'est de mettre le riz dans de la soupe, puisqu'on le sait, la soupe fait grandir. Une soupe de riz, à mon avis.
Bien c'est ça. Et faites cuire votre riz dans votre soupe. Du 18 au 25 juillet inclus, les trains de la ligne 6 ne marquent pas l'arrêt aux stations Trocadéro et Passy. Hein. Décidément, pour aller aux Jeux Olympiques,
mais quel
il faudra
scandale.
Être très motivé. Voilà la fin de la première partie des Improgrammables et il est 20h36. Nous ne marquons pas de pause musicale.
Oh.
Et oui, parce que l'heure tourne, nous en marquerons décidément une deuxième tout à l'heure. Et nous allons tout de suite nous plonger dans les égouts de l'histoire pour analyser l'histoire de James Condi, premier champion olympique de l'ère moderne.
Plongez-vous avec nous dans les égouts de l'histoire.
James Condi, le premier champion olympique malgré lui. James Brendan Condi, né le 28 octobre 1868 à Boston, comme disent nos amis québécois, Boston en bon anglais. Fils d'un immigré italien et d'une mère paysanne amérindienne, James Condi grandit dans un milieu modeste. Son père est ouvrier charpentier, il construit un certain nombre de baraquements dans le Massachusetts. Quant à sa mère, elle tient le foyer avec James, sa sœur, et ses deux frères. James grandit donc dans ce milieu modeste.
Et il faut avouer que James n'a pas le choix. Pour tous ses déplacements, pour aller à l'école, et même pour fuir.
Elton McCurdy, spécialiste de l'histoire de l'Amérique au XIXe siècle.
Il est obligé de se déplacer en courant. Et il court tous les jours sur de longues distances. Minimum 15 km.
Effectivement, en ce temps-là, les écoles n'étaient pas présentes dans tous les villages, et James, pour se rendre à son instruction civique obligatoire jusqu'à 14 ans, devait faire 3 km en courant. Mais James avait un problème, James était retardataire, et ainsi, tous les jours, il sprintait.
Bah, effectivement, hein, on a mesuré très très précisément à l'époque ces chronos, c'était avec une méthode un peu artisanale.
Patrick Delabarre, spécialiste de la course de fond.
En fait, il partait le matin de chez lui systématiquement avec 7 minutes 35 secondes 18 centièmes de retard. Il le savait parce que sur la pendule de l'entrée, hein, il y avait précisément les centièmes. C'était une pendule extrêmement sophistiquée pour l'époque, hein, un cadeau ramené d'Italie par sa mère. Et il partait avec ce retard et il arrivait à l'école lorsque sonnait précisément 8 heures. C'est-à-dire qu'il arrivait à l'heure, il partait en retard, mais il arrivait à l'heure. Donc ce qui nous permettait tous les jours de calculer ces différents chronos.
Et c'est ainsi que jour après jour, James arrivait inlassablement à l'heure pile. Arrivé à la fin de son secondaire, il eut une chance inouïe, une bourse pour partir étudier au collège. Et là, la rencontre qui bouleversa sa vie, son professeur de sport.
Ouais, je voyais bien que il avait la patate, et je lui ai proposé de faire des entraînements le week-end, et il a dit oui.
Gene Brookman, professeur de sport de James et dernier ancien du village.
Il m'a ébloui. Il m'a ébloui. Le premier week-end qu'on a fait, j'ai couru avec lui pour essayer de lui montrer la technique. Et il m'a battu à plate couture. Alors après, je restais sur le bord et je l'encourageais. C'est comme ça que je l'ai suivi jusqu'aux Jeux Olympiques.
Boston, Massachusetts, les États-Unis. James empile les records, tant et si bien qu'il se qualifie pour les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne en 1896 à Athènes, en Grèce. Mais le voyage ne sera pas de tout repos. James embarque sur un bateau, le problème étant que James n'a jamais été sur l'eau.
Oui, alors, on a bien vu qu'il avait le mal de mer, mais bon, à force de courir en rond partout sur le bateau, ça s'explique aussi.
Jean-Marc Grigorovitch, spécialiste du monde naval.
Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'époque, la traversée durait longtemps, à peu près 2 mois. Et en 2 mois, on a vu une transformation physique indéniable. Il a réussi à garder l'équilibre, ce qui lui a servi par la suite avec une foulée aérienne pour améliorer ses temps. Et puis surtout, il a perdu beaucoup de poids à force de vomir tous les jours pendant 3 semaines avant de s'habituer au mal de mer.
En effet, initialement engagé sur les courses de 5000 mètres steeple, James, à force de travailler sur le bateau, d'éviter les marins qui passaient par là et les touristes en goguette, s'engagea finalement sur le triple saut. Il développa des qualités aérodynamiques et aériennes déconcertantes, tant et si bien qu'à la fin de la traversée, avec, tenez-vous bien, 15 kilos en moins, il arriva à Athènes, surpuissant et sautant tel un kangourou.
Exactly. And you have to know that it was a real ball. Bon, bon,
physiologiquement, bon. C'était quelque chose d'absolument incroyable. Il ressemblait littéralement à une balle.
Howard McO-Hewitt, spécialiste des Jeux Olympiques des USA, le meilleur pays du monde.
He was ready to win and to make America great again.
À prendre le vent et faire gagner l'Amérique.
He had a personality extraordinary, and he wanted to know that everything was possible for him.
Pour lui, tout était possible.
He encounters also a woman, and that woman is
the woman. Il n'aimait pas les femmes, car les femmes sont le diable.
Sorti du bateau, il rencontra en effet une jolie grecque, Maria. Elle était vendeuse de poissons sur le marché du port. Et l'amour qu'elle lui procura Maria lui donna des ailes, littéralement. Et bien avant la célèbre boisson que vous connaissez tous, James survola la compétition. Il gagna la première épreuve, la deuxième épreuve, tant et si bien qu'à la fin, il avait glané son rêve, la médaille d'or. Sans le savoir, James remporta la toute première médaille des Jeux Olympiques de l'ère moderne, et c'est ainsi qu'il passa aujourd'hui à la postérité. D'un simple coureur de fond, malade sur un bateau, il se trouva un champion de triple saut. C'était James Conti, le premier champion olympique de l'ère moderne.
Eh bien, nous avons appris énormément de choses. C'est la deuxième pause musicale ou c'est un jingle ?
C'est le jingle qui remplace la RATP car on n'en peut plus des commentaires de David Pujadis sur la
RATP. C'est dommage parce que j'avais des choses sur le RERC à vous communiquer. Mais
c'est bon, le technotram de Tours, ouais.
Bien, je vous propose de marquer une vraie pause musicale sur une musique que notre technicien, mais son moins fort, a choisi, ou alors selon sa tête, va choisir là dans la seconde qui arrive.
Toujours très préparé ce Melson.
Donc nous allons écouter
l'album des deux Laras,
une surprise tout de suite dans nos oreilles.
Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Les balais et les diamants résonnent partout. La corée et le bonheur sont aussi
dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Les sotarama, les bougies, les taxis, les voitures, les voitures. Dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage.
Le dimanche à Bamako, c'est jour de mariage, mais la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ce sera le samedi 26 juillet. Est-ce que certains impronalistes y vont ?
Eh bien non. Pour ma part, je n'y vais pas. Je vais éviter Paris pendant tout l'été pour éviter justement de me retrouver en carafe avec le RERC, le RERA, la ligne
ah,
de métro
le RERC, on n'en a pas parlé.
Oh non,
du
RERC. La ligne 13, la ligne 6.
Là, le RERC, les trains ne marquent pas l'arrêt aux gares de Champ de Mars, Tour Eiffel, Pont de l'Alma, Musée d'Orsay. Attention.
Mais est-ce que le bus relais fonctionne ?
Ça arrête pas dans Paris, donc.
Ça, je ne saurais vous le dire. En tout cas, vous l'aurez compris. Nous sommes...
Attention, des tirs d'armes sont dirigés contre David.
Mon oreille est touchée. Ils m'ont touché l'oreille. Nous sommes toujours sur Radio Campus 99.5 FM. Vous êtes à l'écoute des Improgrammables. C'est pour ça que c'est du grand n'importe quoi. Et nous allons tout de suite passer à la dernière rubrique de cette soirée. Un petit secret pour de grandes histoires.
Aujourd'hui, dans Secret d'Histoire...
Non. Oui. Petit secret.
Oh là
grande
là.
Histoire.
Petit secret, même le titre il l'a faux. On reprend. Aujourd'hui.
Attendez, laissez-moi.
Ouais, ça mérite ça. Pardon.
Ça mérite.
Allez, on reprend. Secret d'histoire en plus, c'est terrible. Aujourd'hui, dans Petit secret, grande histoire, l'histoire de Georges Alain, un homme de courage et de raison qui est allé au bout de son rêve, des lunettes propres. Nous sommes dans la baie de Somme, comme tous les jeudis matins. Georges Alain part faire son jogging. Avant de partir, il ajuste ses lunettes de vue. Et c'est là qu'il remarque une grosse tache de gras.
Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai jamais vu ça, on dirait un mélange de... Mais c'est de la merde !
Ah mais attention, vous marchez ! Aïe !
Bah, mais...
Georges Alain se fait invectiver par une joggeuse passant par là.
Mais vous pouvez pas regarder, vous marchez, c'est insupportable, vous m'avez cogné.
Excusez-moi, mais c'est mes lunettes, regardez, elles ont une substance étrange, c'est...
Ah, ça pue.
Ouais, c'est tout gluant, c'est bizarre.
C'est branlé sur ses lunettes, le mec.
Mais non.
Ah, dégueulasse. Non, mais au secours.
Mais,
au secours,
mais
rentrez. Sexuel, au secours.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Police nationale, personne ne bouge.
Il y a un pervers sexuel, Camille.
Mais enfin.
Des substances qui viennent de son corps.
Allez,
ses lunettes.
Je vous
ai
pas du tout. Les mains derrière le dos.
Mais essayez
de me toucher.
Et on y va.
C'est mes lunettes.
C'est au poste de police que la suite de cette histoire nous emmène. Georges Alain se débat d'innocence.
Mais puisque je vous dis que je suis innocent.
Mais vous ne parlerez que quand je vous y autoriserai d'abord.
Écoutez, Georges, en tant que votre avocat, je vous conseille vraiment de vous taire maintenant.
Mais
tout est contre vous, donc laissez-moi faire votre place, s'il vous plaît. Vous n'allez pas
réussir à vous en sortir sans moi.
Puisque je vous dis que c'est pas...
Georges Alain, silence.
Bien, mademoiselle.
Il était 6h42, moi je faisais mon jogging, j'étais bien. Le gars, il me fonce dedans, il me pousse, en même temps, il me touche les fesses. Soi-disant parce que ses lunettes étaient sales. Et je vous assure, ça sentait ce que je pense.
Et son pantalon de jogging, il était comment?
Il était taché.
Oh!
Il était taché, monsieur.
Je pense que tout l'accable. Ne vous inquiétez pas.
Mais je suis choquée, vous savez.
Oui, je le sais, madame.
Les preuves envers Georges Alain étaient accablantes. Georges Alain a filé tout droit vers la prison.
Mais puisque je vous dis que c'est pas moi!
Il a encouru une peine de 4 ans et 13 mois.
Mais c'était que des lunettes, une substance bizarre dessus, c'est pas moi.
Votre honneur, nous allons faire appel sous couvert de l'argument suivant. Il se trouve que la nuit qui a précédé la problématique de mon client Georges Alain que je représente, des ovnis auraient été identifiés dans le ciel et différentes substances, comme il arrive parfois le sable du Sahara sur la côte ouest de la France, auraient été découvertes sur tous les matériaux vitreux que nous possédons.
Maître, vous devez me sauver, il faut enquêter, il faut savoir ce que c'est, cette substance. J'en perds mes mots. Maître, sauvez-moi, s'il vous plaît.
Ils, effectivement, partirent à la découverte de cette substance.
Mais enfin, maître, je comprends pas, je croyais que j'étais en prison. J'ai le droit de sortir, du coup. Vous êtes magnifique.
Oui.
Nous devons retrouver Georges Alain et son avocat. Car Georges Alain aurait dû être en détention.
Regardez, maître, c'est ici que ça s'est passé. Voilà, c'est là où je courais, exactement là, et...
Bougez plus. Regardez sous votre pied gauche.
Hein ? Mais c'est la même matière.
Et ça a l'air de continuer sur des dizaines de mètres en profondeur.
Ah, je vous retrouve enfin ! Georges Alain, vous allez retourner en prison.
Stop ! On arrête ! Regardez autour de vous, vous voyez bien qu'il y a une substance bizarre.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est dégueulasse !
Eh ben justement, c'est ce qu'il y avait sur mes lunettes, je me tue à vous le dire depuis 3 mois ! Je suis victime d'une erreur judiciaire !
Ce truc était donc une substance qui a par la suite été appelée chlorogulbine. La chlorogulbine, finalement, n'était pas une substance tachante, mais bien le contraire, une substance nettoyante, comme Georges Alain nous l'explique.
Et ben voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, au début, les gens m'ont pas trop cru, mais quand j'ai réussi à prouver l'intérêt de cette substance, regardez mes lunettes, elles sont parfaites, elles sont brillantes. Tenez, si je prends votre écran de téléphone, monsieur, voilà.
Oui. Oh, mais attendez.
Vous avez vu cette brillance ? Il est comme neuf, il sort de lui. Voilà, donc c'est ainsi que j'ai breveté cette substance et que maintenant je suis très riche et finalement c'était un mal pour un bien.
Et votre honneur, je tiens à dire que si mon client a réussi à breveter cette substance, ce qu'il a nettoyé avant tout, c'est son âme.
Merci maître.
Encore une bien belle histoire dans Petit Secret pour Grande Histoire.
Il n'y a pas de cours. Ah là 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 là, Guillaume. Bon, on comprend pourquoi vous avez été viré d'autres radios, hein, tout s'explique. Merci néanmoins pour cette magnifique histoire, il nous reste quelques minutes. Le temps de vous dire quand même que sur la ligne 4, les trains ne marquent pas l'arrêt à la
station. Mais c'est
pas vrai. Non, mais attendez, c'est un complot.
Non mais Hidalgo, démission.
Ça s'appelle le comique de répétition, vous connaissez ce principe? C'est lourd. Hein. Chevalier d'Espalais, c'était très très bon là-dedans. Bien, avant de se quitter, une date cet été à retenir du Tour Impro Club qui joue.
Ça s'appelle le comique de répétition.
Oui,
vous connaissez David ?
Vous êtes coutume du fait. Le Tour Impro Club jouera son spectacle Tic Tac 30 le samedi 24 août dans une guinguette fort agréable qui s'appelle La Burette, qui est située à Ballan-Miré, tout au bord du Cher. C'est très sympa, il fera sans doute très beau, on vous engage à y venir. Et puis bientôt...
David, à quel horaire ?
Ah ben bien sûr, à quel horaire, je ne l'ai pas noté, mais c'est
à 17h30.
Tu sais, beaucoup plus tôt que d'habitude.
Beaucoup plus tôt que d'habitude, à la burette à 17h30 le 24
Donc,
août.
Donc, un petit fin d'après-midi le samedi 24 août à 17h30, à la fraîche ou presque à la burette pour venir voir Tic Tac 30. Hein, on rappelle le principe de Tic Tac 30, hein, 30 impro en une heure chrono. Et puis, une nouvelle saison.
J'aurais même dit en 60 minutes, David.
Si c'était pour me couper pour ça, c'était franchement pas nécessaire. Une nouvelle saison du Tour Impro Club qui débutera dès le mois de septembre. Avec des spectacles qu'on connaît bien, sans doute plein de surprises, des matchs d'impro, on vous en dira plus dès la rentrée. Avant de se quitter, un petit mot hein, de vos vacances, chacun, j'allais dire chacune et chacun, mais il n'y a que des hommes autour de cette table. Alors vos vacances, Guillaume ?
Je pars dans le sud de Tours, à jouer les tours. Voilà, j'ai réservé un petit camping avec ma femme, il y aura mon fils chanteur.
Faites attention aux bouchons hein. Partez pas un samedi. Frédéric ?
Eh bien, moi, je pars dans le sud aussi, mais plutôt du côté de Toulouse et des Pyrénées, pour faire un petit peu de randonnée, continuer de sculpter ce corps qui est magnifique déjà et qui est le mien.
Et oui,
j'espère que vous n'allez pas vous perdre à Toulouse.
C'est une blague qu'il faut expliquer, donc c'est qu'elle est mauvaise. Mais il faut l'expliquer, là.
Alors,
se perdre, Toulouse, perdre. Lose en anglais.
Toulouse en anglais, effectivement, ça veut dire perdre, mais au jeu, ça veut pas dire se perdre.
Oh, on est très loin.
Votre micro est coupé, Frédéric, parce que ce que vous dites n'intéresse personne.
Vous avez juste fait un contresens complet.
Quelqu'un entend Frédéric ?
Jean-Marc Moravidi, vos vacances.
Bah écoutez, on dit que finalement, des fois, il n'y a pas besoin de faire le tour du monde pour se sentir bien chez soi. Donc, je ne fais pas le tour du monde cette année. De toute façon, je n'ai pas d'argent. Voilà,
je veux dire, vous êtes fauché. Hein, exactement. Rester chez vous. Bah oui, il faut dire, ça paye pas très bien d'être un pronaliste à Radio Campus.
Ah, ça paye ?
Un petit message d'ailleurs à nos employeurs.
Et alors, mais le son moins fort, on se doute un peu de ce que vont être vos vacances.
Ah bon ?
Mais oui!
Mais alors éclairez-moi, David!
Eh bien, vous allez regarder du sport tout l'été, le commenter, vous entraîner, j'imagine.
Alors, il faut savoir quand même que Nelson, hein, le vrai, était surtout connu pour ses commentaires cinglants sur les patineuses qui, comme vous le savez, officient aux Jeux Olympiques d'hiver.
Mais il ne commentait pas que ça.
Pas que ça, mais tout de même, depuis que l'équitation n'est plus commentée par feu Jean Rochefort... que nous déplorons et que nous pleurons tous, surtout, la vie médiatique de mon homonyme et mon homologue est bien moins palpitante.
Eh bien, en effet, nous ne pouvons
alors
mais
peut-être
mais
que
vous, le constater.
Mais vous, David. Mais voilà, que faites-vous, David
Rien de très original, sans doute.
Eh bien, dans ce cas, nous comprouvons
un petit peu de bord de mer et puis un petit peu de montagne. Un été, en tout cas, sans improvisation, car il faut savoir faire des pauses. Et c'est important, je pense, pour tous, hein, que l'on fasse une pause d'improvisation. C'est pourquoi il n'y aura peut-être pas d'émission des Improgrammables au mois d'août ou une rediffusion, mais nous reviendrons renforcés en septembre. Et cette fois-ci, pouvons-nous nous engager à avoir des jingles de fin d'improvisation devant l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent ?
Honnêtement, non.
Non, on ne peut pas s'engager.
Vous avez un problème avec les jingles de la RATP ou Technotram ?
On ne peut pas
s'il faut faire une pause d'improvisation et créer des jingles, mais ça me semble un petit peu compliqué.
Les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
On vous promet d'essayer et d'ici là, on se quitte sur le son du tramway de Tours. On vous souhaite d'excellentes vacances, un très bel été à toutes et à tous et on se retrouve bien évidemment au mois de septembre pour une nouvelle saison. C'est bien beau de faire l'idiot mais maintenant il faut mettre le vrai générique.
Et mais il arrive, il suffit de le demander gentiment avec le sourire car il est si beau votre sourire, David.
Merci, à très bientôt chers amis.
À très bientôt.
Bel été.
Ciao.